VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du mardi 24 septembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seboudia.
Et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Discours du président américain Donald Trump à la 74e Assemblée générale de l'ONU à New York.
Toujours à New York, suspense sur une éventuelle rencontre entre le président Trump et son homologue iranien Hassan Rouhani.
Et puis face aux appels croissants à le destituer, le président Trump nie toute pression sur l'Ukraine pour une enquête sur son rival politique, l'ancien vice-président Joe Biden.
En Algérie, ouverture hier du procès de deux ex-chefs du renseignement d'une personnalité politique et du frère d'Abdelaziz Bouteflika, le président déchu.
En Israël, début hier des discussions entre le président Reuven Rivlin, le premier ministre sortant Benjamin Netanyahou et son principal rival Benny Gantz pour la formation du prochain gouvernement.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le président américain Donald Trump retrouve aujourd'hui la tribune de l'ONU à l'occasion de la 74e Assemblée générale de l'Organisation mondiale pour exposer, entre autres, sa stratégie sur l'Iran qui suscite des interrogations dans un climat de vive tension. Depuis les attaques du 14 septembre contre deux installations pétrolières saoudiennes attribuées par les Occidentaux à la République islamique, M. Trump se montre tour à tour menaçant et apôtre de la retenue. Le point avec Jean-Roger Bion.
Face aux représentants des 193 États membres des Nations Unies, Donald Trump, en quête d'appui sur l'Iran, pourrait mettre en sourdine ses attaques contre le multilatéralisme. Depuis que le président américain est sorti en 2018 de l'accord international visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne insistent sur la nécessité de sauver le texte existant. Donald Trump, qui prendra la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies, juste après l'un de ses admirateurs déclarés, le Brésilien Jair Bolsonaro, aura probablement aussi à cœur de parler à sa base électorale à quelques 400 jours du prochain scrutin présidentiel. Vieux routier de cette grand-messe diplomatique annuelle, le président iranien s'exprimera, lui, mercredi. Autre dossier sur lequel M. Trump est attendu, le Venezuela. Depuis que les États-Unis, suivis par une cinquantaine de pays, ont reconnu en début d'année l'opposant Juan Guaido comme président par intérim, la situation a peu évolué. Les États-Unis veulent s'assurer que la question de la transition politique au Venezuela reste une priorité de la communauté internationale, souligne un haut responsable américain. Une ombre planera sur son discours, la menace d'une procédure de destitution agitée par l'opposition démocrate après les révélations sur les pressions qu'il aurait exercées sur l'Ukraine pour nuire à son potentiel rival démocrate, l'ancien vice-président Joe Biden.
Notons à ce sujet que les présidents démocrates des commissions des affaires étrangères, du renseignement et de la surveillance gouvernementale de la Chambre des représentants ont demandé au secrétaire d'État américain Mike Pompeo de leur livrer tous les documents concernant l'Ukraine d'ici à jeudi, s'il ne veut pas y être contraint. Selon eux, un proche collaborateur de M. Pompeo a reconnu avoir aidé directement à arranger des réunions entre l'avocat personnel du président Trump, Rudolph Giuliani, et des officiels ukrainiens quelques jours après une conversation téléphonique entre M. Trump et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.
Le président américain a reconnu avoir parlé de corruption et de M. Biden pendant cette conversation. L'opposition démocrate soupçonne M. Trump d'avoir à cette occasion profité de sa position pour pousser M. Zelensky à enquêter sur Joe Biden en utilisant notamment une aide militaire comme levier de pression. Ce que M. Trump dément tout en balayant la menace d'une procédure de destitution malgré les appels de plus en plus pressants agitant l'opposition démocrate.
Concernant maintenant l'Iran, le président Trump a affirmé lundi qu'aucune rencontre n'était prévue à ce stade avec son homologue iranien Hassan Rouhani, mais il a entretenu le suspense sur la possibilité d'une entrevue à New York en ajoutant « Je n'exclus jamais rien ». Le président français Emmanuel Macron, qui joue les médiateurs, a eu lundi matin une première réunion informelle avec M. Trump à l'abri des médias. Et hier soir, il s'est entretenu pendant 1h30 avec son homologue Hassan Rouhani, sans que rien ne filtre de leur discussion. « Je verrai de nouveau Trump mardi », avait déclaré dans la journée M. Macron. Nous reviendrons sur le programme à l'Assemblée générale de l'ONU en seconde partie de cette édition avec notre correspondante Dili Diko.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour sur la République démocratique du Congo et le deuxième vaccin expérimental anti-Ebola qu'elle va utiliser, selon l'Organisation mondiale de la santé, dès la mi-octobre. L'OMS elle-même a été accusée, comme vous le savez, par Médecins sans frontières, de rationner le vaccin des laboratoires Merck, le seul utilisé à ce jour contre l'épidémie. Irénée Hermanoumbo fait le point.
Selon l'OMS, ce deuxième vaccin expérimental fabriqué par Johnson & Johnson et qui requiert l'administration de 2 injections à 56 jours d'intervalle sera administré à des populations à risque dans des régions de la RDC où il n'y a pas de transmission active du virus Ebola. Très critiqué par Médecins sans frontières pendant l'épidémie en Afrique de l'Ouest pour la lenteur de sa réaction et pour n'avoir pas mesuré l'ampleur de la crise, l'OMS a depuis entrepris une profonde réforme de son fonctionnement. L'ONG accuse cette fois l'agence onusienne de rationner le vaccin des laboratoires Merck tout en relevant que les raisons derrière ces restrictions restent obscures. MSF rejette aussi l'argument d'une crise d'approvisionnement. Merck vient de déclarer qu'en plus de 245 000 doses déjà livrées à l'OMS, ils étaient prêts à envoyer 190 000 autres doses si nécessaire et que 650 000 autres seraient mises à disposition dans les 6 à 18 prochains mois. Pour le moment, l'épidémie de la fièvre à virus Ebola a fait plus de 2 100 morts dans l'est de la RDC.
Et nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Au Libéria, un pays ravagé par une épidémie d'Ebola de 2014 à 2016, plus de 10 000 professionnels de la santé ont entamé hier une grève pour réclamer le paiement des salaires et l'approvisionnement en médicaments des hôpitaux. Ce mouvement a provoqué l'inquiétude des femmes enceintes et des jeunes mères qui ont manifesté à Monrovia. Les détails avec Ekia Badou.
Nous sommes en grève à travers le pays, a déclaré George Williams, secrétaire général de l'Association des travailleurs de la santé du Libéria. Selon lui, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, pas de matériel de protection comme des gants. Il ajoute que les labos ne sont pas équipés et la plupart des travailleurs n'ont pas encore reçu leur salaire de juillet alors qu'il faut payer les frais de rentrée scolaire. Craignant les conséquences de ce débrayage, une quarantaine de femmes enceintes et de jeunes mères de famille ont organisé hier une manifestation près du centre de santé de Duport Road dans le nord de Monrovia. Le ministère de la Santé s'est refusé à tout commentaire. Le Libéria, un des pays les plus pauvres du monde, a été durement éprouvé par les guerres civiles de 1989 à 2003. Le gouvernement du président George Weah, au pouvoir depuis début 2018, n'arrive pas à endiguer l'inflation galopante. Cette morosité de l'économie frappe de plein fouet le secteur de la santé, déjà très sinistré par l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016.
En Algérie, 2 ex-chefs du renseignement, une personnalité politique et le frère du président déchu, un procès emblématique s'est ouvert hier à Blida après une vague d'arrestations lancée dans le sillage de la démission du président Abdelaziz Bouteflika sous la pression de la rue. Encore homme fort du régime en début d'année, Saïd Bouteflika, mais aussi Mohamed Medien dit Toufik, longtemps directeur des puissants services secrets algériens, son successeur Atman Tartag et la chef du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, sont présentés devant la cour selon des médias locaux. Les chefs d'inculpation sont lourds, atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État, crimes pour lesquels ils encourent de très fortes peines.
En Israël, le président Reuven Rivlin a entamé hier des discussions avec le premier ministre sortant Benjamin Netanyahou et son principal rival Benny Gantz. Il essaie de les convaincre de former un gouvernement d'union nationale après des législatives qui n'ont pas réussi à les départager. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le président Rivlin a commencé à Jérusalem des discussions hier dans la soirée avec messieurs Netanyahou et Gantz après avoir terminé ses consultations avec l'ensemble des formations élues au Parlement. Il doit désigner demain mercredi celui qui aura le mandat de former le prochain gouvernement. Il pourrait ainsi mettre fin aux 13 ans de règne de Benjamin Netanyahou. Ni Netanyahou à la tête du parti de droite Likoud, ni Benny Gantz qui dirige le parti centriste bleu-blanc n'est en mesure de réunir 61 députés, la majorité absolue au Parlement. Le parti de Benny Gantz, avec ses 33 sièges, a reçu le soutien de la gauche et d'une partie de la liste unie des formations arabes israéliennes. Mais cela ne lui octroie que 54 sièges. Le Likoud de Benjamin Netanyahou a 31 sièges et il n'est en mesure de rassembler que 55 sièges avec ses alliés religieux et de la droite nationaliste. Monsieur Gantz et Netanyahou ont tous deux appelé à la formation d'un gouvernement d'union, mais chacun veut en prendre la tête.
Le géant aéronautique américain Boeing a proposé lundi de verser 144 500 dollars à chaque famille des 346 victimes des deux accidents de 737 MAX sur les compagnies Lion Air et Ethiopian Airlines. Les proches des disparus peuvent déposer leur demande d'indemnisation dès ce jour et jusqu'au 31 décembre, précise un communiqué du fonds dédié à ces indemnisations. Tous les modèles 737 MAX sont cloués au sol dans le monde entier depuis l'accident du vol d'Ethiopian Airlines en mars en Éthiopie. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Tanzanie a condamné 5 banques commerciales à une amende de plus de 800 000 dollars pour contrôle laxiste aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent. Les amendes ont été infligées pour manque de vigilance et pour n'avoir pas signalé des transactions suspectes auprès de la Cellule nationale de renseignement. Ce contrôle est l'une des dernières initiatives de la Banque centrale tanzanienne pour renforcer la réglementation des services financiers. En Éthiopie, la centrale hydroélectrique de Genal Dawa 2 pourrait être en marche avant la fin de l'année. D'une capacité de 254 MW, cette infrastructure construite par la Chine a coûté 450 millions de dollars, dont 60% constitue un prêt de l'Exim Bank of China, tandis que le gouvernement éthiopien a fourni les 40% restants. L'Éthiopie veut quadrupler sa capacité électrique d'ici à 2020 en s'appuyant sur l'hydroélectricité, l'éolienne, la géothermie, la biomasse et le solaire. Pour terminer cette minute éco, les stocks du bois Kevasingo, illégalement abattu et saisi au Gabon en février, seront mis aux enchères et le ministère de la Forêt espère pouvoir réautoriser l'exploitation de ce bois précieux en 2020 ou 2021. Il estime que les stocks actuels de Kevasingo pourront assurer pendant 12 à 24 mois la production de meubles exportés surtout vers la Chine.
Sport à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Athlétisme, le gendarme antidopage saisi de soupçons sur des Kenyans.
Je sais que l'unité d'intégrité de l'athlétisme s'est saisie de certaines accusations parues dans les médias allemands, a affirmé le patron de l'athlétisme mondial, Sébastien Kohl. La chaîne allemande ZDF a révélé qu'au moins 2 athlètes kenyans engagés aux mondiaux ont été traités à l'EPO avant la compétition et selon ZDF, qui ne cite pas de nom, il s'agit d'un homme et d'une femme filmés en caméra cachée en train de recevoir une injection intraveineuse d'EPO 3 semaines avant l'ouverture des mondiaux de Doha qui auront lieu du 27 septembre au 6 octobre prochain. La fédération kenyane assure que les athlètes ont été informés des règlements et prévenus qu'ils seraient exclus à vie de l'équipe nationale en cas de dopage.
Lionel Messi est le meilleur joueur de l'année.
L'Argentin du FC Barcelone a reçu à Milan hier le prix FIFA The Best du meilleur joueur de l'année. Il a été préféré au défenseur néerlandais de Liverpool Virgil van Dijk, nommé il y a un mois joueur UEFA de l'année. Le troisième finaliste, Cristiano Ronaldo, était absent à Milan. L'Argentin a fini meilleur buteur européen de la saison avec 36 buts et champion d'Espagne avec le Barça, mais il s'est arrêté en demi-finale de la Ligue des Champions. Chez les femmes, le prix a été remis à l'américaine Megan Rapinoe, championne du monde l'été dernier en France avec sa sélection. L'entraîneur allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, a reçu le prix du meilleur entraîneur de l'année.
Huit clos pour la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie, sanctionnés par l'UEFA.
L'UEFA a sanctionné le comportement raciste des supporters hongrois et slovaques lors du match qui opposait leurs deux pays et condamné chacune des deux sélections à disputer son prochain prochain match à domicile dans un stade vide. La Hongrie reçoit l'Azerbaïdjan le 13 octobre, tandis que la Slovaquie accueille le pays de Galles le 10 octobre. De son côté, la Roumanie a été condamnée pour le comportement raciste de ses supporters lors de la défaite 1-2 à domicile face à l'Espagne le 5 septembre. Elle a écopé d'un match à huis clos pour la réception de la Norvège le 15 octobre et d'un second huis clos, mais avec sursis.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seroudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Tout de suite, l'ouverture du débat général de l'Assemblée générale de l'ONU aujourd'hui à New York, où nous retrouvons notre correspondante Dilly Dico, qui nous parle d'abord du programme de cette journée de mardi à la 74e Assemblée générale.
Dans la matinée, plusieurs présidents vont s'adresser aux tribunes de l'ONU, dont le président américain, égyptien, le président turc et le président nigérian. Mohamedou Bouhari fera partie des premiers présidents à prendre la parole. Il est donc prévu en cinquième position ce matin. Et en première position, le premier président qui va s'adresser aux tribunes de l'ONU, ce sera le président du Brésil. Tout le monde attend de voir ce qu'il va dire, surtout dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Le Brésil est très attendu. Dans l'après-midi, il y aura beaucoup plus de présidents africains, donc le Sénégal, le Rwanda, le Niger et aussi le Maroc prendra la parole. Donc pour la journée, plusieurs discours présidentiels, dont la France et le Burkina Faso, et aussi des conférences en marge se tiendront aujourd'hui sur des thématiques comme la santé ou la bonne gouvernance, dont une conférence très importante de l'OMS. Et en fin de journée, je prévois de prendre part à une conférence sur les femmes et les jeunes filles dans les zones en conflit, notamment en RDC et au Soudan du Sud.
Vous semblez parler du climat comme un des thèmes principaux de cette session de l'Assemblée générale de l'ONU. Y a-t-il d'autres thèmes qui semblent dominants, à votre avis ?
Le grand thème de cette année, c'est vraiment le climat. Et l'autre thème dont on a beaucoup parlé au cours de la journée d'hier, donc lundi, le président Donald Trump s'est rendu à l'Assemblée générale pour parler des libertés religieuses. Il y avait une conférence spéciale à laquelle j'ai pu assister et le président a fait savoir qu'il s'agissait là d'une première et qu'aucun autre président américain n'avait jamais tenu une conférence sur ce sujet, donc les libertés religieuses. Il était là accompagné du vice-président Mike Pence et aussi du secrétaire d'État, Mike Pompeo. Et à ses côtés, il y avait aussi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a fait des remarques sur l'état des libertés religieuses dans le monde. Et le président Donald Trump, au cours de cette conférence d'environ une demi-heure, s'est dit choqué de savoir que la liberté religieuse est toujours entravée dans de nombreuses parties du monde.
Le président Trump, puisque vous parlez de lui, a fait une apparition surprise au sommet sur le climat.
Oui, tout à fait. C'était une grande surprise puisque les États-Unis avaient décliné de participer à la conférence sur le climat. Seuls 66 États sur les 136 chefs d'État présents à l'ONU hier ont participé. Mais malgré le fait qu'ils n'étaient pas très nombreux, c'était très positif parce que ces 66 États se sont engagés à œuvrer pour une neutralité carbone à l'horizon 2050.
Concernant le climat, il faut quand même rendre hommage aux jeunes qui sont mobilisés pour faire pression sur les leaders du monde, n'est-ce pas ?
Tout à fait, il faut rendre hommage aux jeunes et surtout au symbole de cette lutte qui est Greta Thunberg, une jeune Suédoise de 16 ans qui vraiment symbolise la lutte des jeunes en faveur du climat et contre le réchauffement climatique. Vendredi dernier, il y avait une manifestation géante à New York et dans plusieurs capitales du monde entier, notamment en Afrique, à Johannesburg, à Nairobi. Et donc ici à New York, les lycéens et même les élèves de l'école élémentaire se sont rendus dans les rues. Ils étaient des milliers pour faire connaître leur ras-le-bol et surtout pour que les dirigeants fassent enfin quelque chose pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ils ont bien expliqué qu'ils attendent des mesures concrètes. Et justement, samedi, il y a eu une conférence de la jeunesse sur le climat pour justement faire écho à la conférence qu'il y a eu hier, lundi, à l'ONU, avec les dirigeants.
Delly Dico, notre correspondante à New York.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nous vous le disions hier, au Burkina Faso, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'ex-président Blaise Compaoré, a suspendu ou exclu de ses rangs plusieurs membres influents. Ces sanctions interviennent après des dissensions principalement au sujet du choix du candidat à l'élection présidentielle de 2020. Léonce Koné est l'un des barons du CDP. Bakassi Koura lui a demandé s'il acceptait son exclusion du parti.
Oui, écoutez, je l'accepte, sans pour autant reconnaître qu'il a été pris dans des conditions régulières. Hein. Mais je l'accepte parce que je ne veux pas qu'on traîne sur cela. Je ne veux pas me battre avec eux pour revendiquer l'appartenance à un parti. Donc les dirigeants actuels ont décidé de m'exclure.
Bourema Badini ou Kadré Désiré Ouédraogo ont démissionné. Est-ce que vous allez faire de même?
Écoutez, je ne m'en vois pas l'utilité une fois que je suis exclu. Démissionner ne servirait à rien, sauf à manifester que moi, de mon côté, je me fais part d'eux. De manière pratique, ça n'a pas d'utilité.
Et comment est-ce que vous vous expliquez ces querelles au sein de l'ancien parti au pouvoir?
À mon avis, elles s'expliquent tout simplement par les luttes internes, intestines, pour obtenir l'investiture du CDP pour l'élection présidentielle. Et il se trouve que Kadré Désiré Ouédraogo, comme il en a le droit en tant que citoyen et en tant que militant du CDP, a déclaré en février dernier qu'il était candidat à l'élection présidentielle, sans préjuger d'ailleurs hein, de ce que serait la procédure au sein du CDP pour la désignation du candidat et son investiture. Et depuis cette date-là, nous avons assisté à une série d'interventions intempestives, agressives, dans la presse, dans des réunions, à l'égard de tous ceux qui étaient présumés soutenir la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo. Ça n'a pas de sens dans un parti politique qui se veut démocratique.
Avec toutes ces suspensions, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin du CDP comme on l'a toujours connu?
Non, ce n'est pas la fin du CDP parce que c'est un grand parti qui a des militants qui lui sont attachés, quels que soient par ailleurs les dérapages, les errements de la direction actuelle. Le CDP, c'est un parti de masse, avec de nombreux militants qui ont foi dans ce parti, qui ont le souvenir que sous la direction de Blaise Compaoré, ce parti a gouverné le pays pendant une trentaine d'années. Et donc ça existe, même si ce sera forcément affaibli par la situation actuelle. Et maintenant, est-ce que le CDP va continuer à avoir la même force qu'avant sur le plan électoral, sur le plan de la mobilisation, sur le plan de la conviction de ses militants en faveur d'une cause qui est acceptée par tout le monde? Je ne le crois pas, en toute sincérité. Je pense que le parti sera affecté par cette décision-là et je le regrette profondément.
Léonce Koné a été joint à Ouagadougou au Burkina Faso.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En République démocratique du Congo, un deuxième vaccin anti-Ebola sera donc administré à partir de la mi-octobre. L'OMS qui a annoncé la nouvelle se félicite de la décision des autorités congolaises. Pourtant, l'ancien ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, s'y était opposé et avait mis en garde contre les conséquences. Il est actuellement accusé de détournement de fonds destinés à combattre Ebola et a été assigné à résidence la semaine dernière. Eddie Isango a joint à Beni un des médecins de l'équipe de riposte contre Ebola, le docteur Philippe Kiumo.
Que ce bon vaccin sera utilisé dans les zones non actives Ebola. Les zones non actives, c'est les zones où elles ne sont pas en train d'être rapportées. Par contre, le premier vaccin sera toujours utilisé dans les zones actives où les cas d'Ebola sont en train d'être rapportés.
Mais qu'est-ce qui explique les recours à ces deuxièmes vaccins alors qu'on avait déjà un qui a semblé donner des fruits?
Par rapport à la politique du gouvernement, c'est que le gouvernement jugeait bon introduire un second vaccin. Et surtout que c'est un vaccin, selon le groupe d'experts qui ont démontré que c'est un vaccin qui pourra aider à freiner la flambée de l'épidémie, mais aussi, je pense, les raisons, c'est par rapport aux raisons utilisées comme quoi il peut y avoir une pénurie par rapport au gouvernement. Je pense que par rapport à toutes ces inquiétudes que le gouvernement congolais a accepté d'introduire ce vaccin.
Quelles inquiétudes?
Les inquiétudes par rapport à la livraison ou à la disponibilité des doses par rapport au premier vaccin qui est utilisé beaucoup plus dans les zones actives et de là.
Le ministre qui a démissionné, Oli Ilunga, avait émis des réserves quant à ces vaccins. Il me semble que ce soit un vaccin qui n'est pas homologué. Est-ce que les autorités congolaises ont tenu compte de ça?
Pour moi, je n'ai vraiment pas envie de commenter la position que la Première ministre a donnée par rapport à ce second vaccin. Mais si le gouvernement congolais a accepté que le second vaccin soit utilisé, je pense que le gouvernement congolais est conscient de tout ce qui a été fait comme étude par rapport à ce second vaccin. Et l'équipe qui a été installée, dirigée par le professeur Mouyembe, je crois que c'est aussi une équipe qui a confiance en elle-même. Elle ne peut pas accepter qu'on utilise un vaccin qui n'a pas prouvé ses efficacités sur la population congolaise, déjà puisque l'État congolais est celui qui protège d'abord la population congolaise. Donc je pense que c'est peut-être pour endiguer cette épidémie pour que jamais elle n'entraîne beaucoup de morts comme nous en avons déjà enregistré.
Déjà, il y a beaucoup de réticences par rapport au vaccin en RDC, par rapport à la polio et autres. On dit beaucoup de choses.
Avec tout partira de la façon dont la sensibilisation passera au sein de la communauté. Et la communauté donne beaucoup plus d'importance aux rumeurs que aux choses dites par les experts. Si on précède cette campagne par une sensibilisation sérieuse.
Le docteur Philippe Kiumu, un des médecins de l'équipe de riposte contre Ebola à Beni, dans le Nord Kivu.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
I don't know where, Sasa Natumio.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nicolas Ivonaf. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.